est 11h. C'est l'heure de la maraboutique.
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la maraboutique.
Maraboutique du dimanche matin, comme tous les dimanches, nous prenons donc notre Bastille.
Musicalement, Doyen Manou, et avec les magasins ouverts, puisque ça y est, vous allez devoir passer par la case grand magasin, puisque décembre est arrivé, pour déjà faire les courses pour Mylène et tous les amis.
Oui, à maillot jaune.
Alors, des idées cadeaux, apparemment, rupture de stock, vous avez vu quand même le mois dernier, ça avait été sacrément épicé, et rupture donc des maillots jaunes, certains disent que c'est bien pour les fabriques.
Oui, mais tout le monde y trouve son compte. Hein. Enfin, ceux qui ont eu l'idée, ils ne savaient pas que... En fait, c'est une Antillaise qui a eu cette idée-là, parce que c'est la première fois, c'est la première qu'on avait vue comme ça.
Absolument.
À une station de...
Et à Politique.
Et puis là, évidemment, comme d'habitude, la récupération n'est pas loin. Hein.
Alors tout le monde s'est senti concerné, enfin tout le monde aussi, enfin, parce que ceux qui étaient près des dépôts d'essence, de carburant, et ceux qui ont goûté aux joies des embouteillages multiples, neige ou pas, ont vu quand même que ce mouvement, il avait quelque chose d'un peu bonnet rouge.
Oui, au départ, enfin tu vois, on butinait, ça part du diesel, puis ça part multidirection, multiple. Piste quoi.
En mode multipiste, alors qu'aujourd'hui, nous allons évoquer un très très grand bonhomme, et François nous a suggéré d'ailleurs, même si le top horaire est arrivé il n'y a pas longtemps, de passer par la case pub avant de revenir et de recevoir notre invité.
Bonne idée.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
La radio africaine 107.5 FM. Et alors que nous sommes dans ces studios avec le Doyen Manou, autre nouvelle, un ouvrage, du moins un visage, nous arrive comme ça.
Oui, Devenir, vous avez dû voir ça dans tous les magasins, parce que la promo, on dirait Beyoncé, disons.
Ah ben oui, c'est quasiment une pochette d'album, mais avec plus de contenu à mon avis.
Oui, quand même.
Quoique sa popularité, cette dame, Doyen Manou, elle peut faire de l'ombre à Beyoncé.
Oui, c'est deux domaines différents. Alors, ce qui est bien, en fait, c'est qu'elle est belle, elle danse aussi bien, mais elle a quelque chose en plus, elle est très intelligente. Et puis, c'est une femme de président, et c'est le premier président des États-Unis noir. Alors, elle-même, elle n'a pas fait des études inférieures, quoi. C'est pas l'école normale inférieure, quoi. Bon, donc, c'est une dame qui mérite quand même un peu plus d'attention, parce que jusqu'à présent, il y avait des flashs. Bon, on sait que c'est la femme du président, mais qui elle est elle-même? Il y a un vaste volume, très intéressant, avec des photos qui illustrent un peu son parcours. Réellement une grande personne, une grande dame, quoi.
Et oui, et il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Michelle Obama. Quelle histoire avec ce mois de novembre, 2008, où tout le monde était scotché devant son petit écran, en découvrant l'avancée donc de cette femme noire aux côtés de son mari. Premier couple donc afro-américain accédé à la Maison Blanche. Deux mandats pour Barack Obama, beaucoup de dire... Et si, Michelle,
Elle a dit non, ça l'intéresse pas, ça rehausse encore son prestige, parce que tout le monde à sa place courait, parce que la place est bonne. Hein. elle dit non, elle veut pas faire ça, donc il y a encore beaucoup plus d'estime de voir ce genre de personnage par le temps qui court, dans l'intégrité, l'intelligence... Ça n'enlève rien à sa beauté et intellectuelle et physique.
Michelle Obama, Devenir, est paru donc aux éditions Fayard. Tout le monde se l'arrache à la radio. Hein. Salah Eddine est revenu des États-Unis. Stéphanie Hartmann et Francis Laloupeau se penchent dessus. Il faut dire qu'à la présentation, du moins à la conférence de presse le mois dernier, il n'y avait plus de place. Ça a été un peu comme un concert d'ailleurs.
Hein. Ben ouais, en plus j'étais payant.
Oui, toujours. Ah ben il faut amortir les frais des déplacements, dit-on. Alors en tout cas, c'est une œuvre que l'on vous conseille, c'est une idée cadeau.
Oui, et puis, bon, il y a une anecdote là-dedans, il y en a plusieurs, mais à la Maison Blanche, quand tu peux avoir tous les plats que tu veux, en tant que président, en tant que présidente, mais c'est pas gratuit. Tu payes personnellement tout ce que tu as envie, tu veux une langouste, tu veux n'importe quoi. Alors là, c'est typiquement américain. on te facture à la fin du mois tes envies.
Alors ça, c'est une méthode qu'on imagine très très mal s'appliquer sous d'autres cieux pour payer la nourriture au palais présidentiel.
Mais c'est vrai, mais De Gaulle, à l'époque du téléphone fixe, De Gaulle, quand il téléphonait pour personnel qui n'avait rien à voir avec le gouvernement, il payait, il mettait sa pièce. Il avait une boîte pour mettre sa pièce quand il téléphonait en dehors des problèmes. L'intégrité du gars, quoi, tu vois.
Le grand Charles, une leçon à retenir pour les présidents d'aujourd'hui.
Oui, les.
Alors avec un petit trémolo et un petit chat dans la gorge, on est heureux d'accueillir ce dimanche matin de Manou un invité. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de son statut.
C'est vrai, quelqu'un qui défend la veuve et l'orphelin, on n'en a pas toujours reçu. On a toujours reçu des gens qui font plaisir, le plaisir des oreilles, hein, la musique et ça. Puis de temps en temps, on a décidé de déborder et de faire voir le côté... le beau côté du soleil de l'Afrique en France et ailleurs, des garçons, des dames qui font quelque chose de remarquable dans leur... tout le monde n'est pas balayeur, voilà.
Et oui, voilà. Et c'est vrai que dans cette France multiple, eh bien, il y a des gens de la Herencia Africana, du continent, qui aussi sont multiples, et c'est le cas de Maître Bocar Kanté, avocat au barreau de Paris. J'en ai même un trémolo dans la voix. Bonjour maître.
Bonjour, je vous remercie de me faire l'honneur de m'accueillir dans votre émission qui est très très suivie. Et moi-même j'ai l'habitude de la suivre. Et
vous êtes le bienvenu.
Okay, merci beaucoup.
Alors assurez-vous, il n'a pas la robe.
Non, il va pas plaider là.
Mais on a vu un sac, il a dans le sac. Vous devez l'avoir tout le temps, comme les médecins, on leur trousse...
Tout à fait, d'une certaine manière.
C'est-à-dire que vous êtes prêt à nous défendre si, par exemple, quelqu'un arrive en disant « j'aime pas la sélection musicale ». Non.
Il faudrait d'abord essayer de savoir pourquoi cette personne n'aime pas.
Et il a son ordinateur devant lui, en plus, de Manou. C'est-à-dire avocat moderne.
Ouais, il travaille quand même toujours avec un accompagnateur. Quoi. Alors, il m'a dit en dehors du micro que quand il n'a pas... Je lui ai demandé s'il a un plan B, parce que si l'ordinateur tombe en panne, ou bien sûr, quelqu'un se l'approprie, et comment ça se passe et tout. Il dit, mais non, d'habitude, j'ai un carnet aussi, parce que j'aime bien avoir toujours un support... quelque part. Alors, vous avez prêté serment à quel moment, maître ?
J'ai prêté serment le 6 février 2013. Cela fait donc un peu plus de 5 ans.
Mm-hmm. Et ça se passe bien ?
Oui, ça se passe bien.
Le volume d'affaires et tout ça, vous êtes au barreau de Paris, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Je suis au barreau de Paris. Bon, les affaires, ça tourne pas mal.
Vous êtes dans quelle branche, alors ?
Bon, disons que je suis généraliste
hein.
Avec dominante droit public. Mm-hmm. Généralement, je travaille beaucoup sur les questions de droits des réfugiés, droits
du monde entier, bien sûr, voilà. Ou bien axé sur l'Afrique.
Bon, principalement ici en France, en fait, le droit des réfugiés en France. Mm-hmm. Mais maintenant sur l'Afrique, je travaille beaucoup plus sur d'autres problématiques, telles mm-hmm. que le droit de l'environnement. Et le droit du patrimoine culturel.
Ah, patrimoine culturel ici ou en Afrique, pour l'Afrique ?
Pour l'Afrique principalement.
Et ça consiste à quoi à peu près ? Donnez-nous un petit exemple.
Bon, par exemple, la protection des monuments historiques. Par exemple, en Afrique, mmh. au Sénégal.
Il y en a beaucoup ou des monuments ?
Si, il y a un certain nombre de... Il y a beaucoup de monuments historiques, mm-hmm. peut-être pas autant qu'en France,
oui,
mais
bien sûr.
Voilà, il y a des arrêtés d'inscription qui sont, disons, pris par le ministre de la Culture selon une certaine périodicité. Et toutes les régions du Sénégal sont, bien entendu, mm-hmm. représentées. Toutefois, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent en termes de législation.
Bon. Entre l'Afrique et le continent européen, ou bien comment ?
Non,
quels sont les critères, en fait, pour que ça devienne un monument, peut-être classé par la suite ?
Voilà. Pour que ça devienne un monument, il faut que ce soit un bien qui soit représentatif de la culture du pays.
Oui.
Son passé, ça peut représenter la mémoire du pays. par exemple. Et dans ce cas de figure, lorsque les ministères de la culture considèrent que c'est un bien qui, en raison de son intérêt historique, scientifique, ethnologique, qui devrait être inscrit sur la liste des monuments historiques, le ministre prend un arrêté d'inscription.
Oui.
Toutefois, cet arrêté d'inscription n'est pas suffisant parce que au bout de 6 mois, il faudrait en fait une proposition de classement.
D'accord.
Wow.
Voilà.
Et le parcours est long.
Tout à fait. Voilà. Et après cette proposition de classement, en fait, l'inscription sur la liste des monuments historiques devrait se faire par décret. Malheureusement, au Sénégal, là où ça ça pêche, c'est que cette proposition de classement n'arrive jamais. Du coup, on se trouve dans la situation suivante, c'est-à-dire en l'absence de proposition de classement, l'inscription devient caduque.
Donc, au bout de 6 mois.
Oui, au bout de 6 mois. Donc la protection disparaît.
Et ça veut dire que n'importe qui peut reproduire le monument ailleurs ou dans d'autres contrées sans avoir à rendre de compte, entre guillemets ?
Non, en fait, il ne s'agit pas d'une question de reproduction, mais il s'agit plutôt d'une question de...
De propriété.
De propriété, mais aussi d'interdiction de transformation du monument. Supposons par exemple un château, par exemple, un fort au Sénégal.
Comme celui de Gorée, par exemple.
Voilà, exactement. S'il n'y a pas cette protection sur la liste des monuments historiques, tout le monde peut venir procéder à des travaux, modifier l'aspect du monument.
Ah
et
oui.
Voilà, exactement. Et la protection, justement, c'est surtout protéger cet aspect, cette mémoire, tous les éléments du monument. Voilà. Et aujourd'hui, au Sénégal, il est vrai que le fait qu'on ne passe pas à ce stade de proposition de classement, on aboutit en réalité à une absence de protection.
Mais est-ce qu'ils le savent? Parce que il faut être au courant de cette démarche là.
Ils en sont conscients, ils le savent. J'en ai déjà parlé avec certaines autorités, mais parfois il y a des problèmes de financement. Mais il ne s'agit pas que de cela aussi. Il y a la question de l'inventaire de l'inventaire des biens culturels.
Et puis il y a aussi le fait, aujourd'hui, il faut le dire clairement, de la manière que certains trouvent des monuments vieillots et préfèrent reconstruire au même endroit des immeubles flambant neufs. On a vu des monuments parfois être rayés discrètement.
Tout à fait. Par exemple, au Sénégal, le problème s'est beaucoup posé au niveau de Gorée, non pas de Gorée, mais plutôt de l'île de Saint-Louis.
De Saint-Louis,
oui. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient quand même procéder à des transformations, parce que ce sont
des privés, des personnes privées.
Des privés, tout à fait.
Exactement. Et là, il y a eu la grande bataille d'Amadou Diaw, que connaît bien le Douamanou, il était à Saint-Louis il n'y a pas longtemps. Et qui est aujourd'hui patrimoine d'ailleurs de l'UNESCO.
Exact, parce que lui, il s'est battu, le fameux forum. Cette étape-là peut rayer le fait que ça soit déclaré monument protégé à l'UNESCO, ça?
Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, d'un point de vue juridique, cela raye la protection, ça enlève toute protection de tous les immeubles classés sur la liste justement des monuments historiques. Et généralement, ce que fait le ministère, c'est que il reprend un nouveau arrêté de classement, en fait, plutôt d'inscription sur la liste.
Oui, on tourne en rond, en fait.
Tout à fait. Hein? Vous avez.
Et alors, qui vient vous voir pour vous dire, tiens, attention, Maître Kanté, il y a tel monument que quelqu'un veut changer. C'est des gens, c'est des privés, des historiens, qui vient vous voir pour attirer votre attention?
Bon, moi, personnellement, personne n'est encore venu me...
C'est vous-même?
C'est vous qui enclenchez l'opération?
En fait, pour une question de protection, non, en fait, c'est plutôt le ministère de la Culture qui doit, en fait.
Qui devrait, comment on vous sensibilise pour que vous puissiez entrer en jeu?
Bon, si par exemple, le ministère de la Culture, ou bien en tout cas une personne qui est intéressée me saisit et pour dénoncer par exemple un immeuble qui est en train d'être détérioré, voilà, dans ce cas de figure, effectivement,
là, vous
je pourrais
intervenez.
Intervenir, tout à fait.
Et alors, avocat au barreau de Paris, mais avec l'œil sur le Sénégal, vous vous faites des va-et-vient
Bon, un autre point.
parce que vous devez avoir, alors pas un jet privé, mais toi et Manu, ils doivent mettre Kanté, doit quand même, parce qu'il
faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent au fait de la protection des monuments aussi. Il y a ça, parce qu'il y a une méconnaissance. Bon, on commence à peine de parler des musées, on veut instaurer des musées en Afrique et
la
tout ça.
La restitution.
Et des restitutions. Voilà, il y a aussi ce problème-là. Mais le problème de comptabiliser les monuments qui sont là et de les faire mettre en relief, enfin, du patrimoine, parce que c'est le patrimoine. Je ne sais pas si tout le monde est déjà à ce niveau-là, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est une bataille. En tout cas, vous enclenchez. Est-ce que vous avez d'autres avocats, des confrères autour de vous avec qui vous discutez de cette question, notamment des confrères africains?
Bon, je vais vous dire une chose, c'est que la plupart des avocats, en tout cas des juristes, hein, dans leur formation, ils se désintéressent de la question du patrimoine culturel. Ce n'est pas une question qui les intéresse.
C'est pas assez rentable.
Voilà, ce n'est pas le domaine. C'est beaucoup plus le droit des affaires et autres.
Oui.
Voilà.
Ben ouais, aujourd'hui, on sensibilise les gens qui nous écoutent.
Ah ben oui.
Hein, on sensibilise au moins ceux et celles qui nous écoutent. Il y a ces problèmes-là. On est toujours dans des grands problèmes, mais les petits problèmes de reconnaissance, de valoriser les monuments en Afrique, personne ne pense à ça pour l'instant, donc ne serait-ce que ça. Je vais faire du coq à l'âne. Nous nous sommes rencontrés un après-midi, un samedi, il y a 15 jours à peu près, pour la projection du film « L'aventure ambiguë ».
Tout à fait.
Et comment vous avez été au courant et comment, à quel niveau ça vous intéressait, Cheikh Hamidou Kane?
Tout d'abord, Cheikh Hamidou Kane, en fait, il est incontournable pour, pour nous Sénégalais. Oui. Déjà, dans le cursus scolaire, l'aventure ambiguë.
Et pour toute l'Afrique aussi. Hein,
oui, parce que... exactement. Et pour toute l'Afrique. L'aventure ambiguë fait partie de notre cursus scolaire, en fait. Au lycée, en classe de seconde, l'aventure ambiguë, il faut
on n'y coupe pas.
Tout à fait, exactement.
Je crois que dans toute l'Afrique francophone...
Ah ben oui. Ah ben déjà, à la maison aussi, parce que avant de revenir sur l'œuvre elle-même, tu disais qu'à la parution de ce livre en 1961, ça a remué, tu disais, tellement de choses. Je me souviens que tu disais ça a remué.
Ben oui, parce que c'est la première fois en fait qu'on racontait l'histoire d'un étudiant. C'est une belle histoire en fait, parce que ça concerne toute l'Afrique qui a lu Mamadou Ebineta, quoi. Voilà, donc tout le monde était un peu intéressé du jeune étudiant africain qui arrive ici pour devenir un homme, quoi, avec un bagage qui devait se remplumer ici, mais il a son passé. L'aventure, effectivement, elle est ambiguë, donc elle intéressait tout le monde, et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et puis en plus, ce monsieur, comme Oyono Ferdinand, n'a fait que deux livres.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a l'aventure ambiguë et puis il y a les gardiens du temple qui est paru en 95. Et pourtant, tout le monde dit, alors c'est une des plus grandes plumes d'Afrique. Oui, parfois il suffit pas d'avoir écrit 20 livres.
Voilà. C'est comme un peu Charles Limbert. Il a un album qui est connu de tout le monde et il n'en a pas fait deux.
Alors vous êtes rencontré lors de cette commémoration des 90 ans, hein, parce qu'il est né en avril 1928, cher Hamidou Kane. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a vraiment de toutes les générations. Et je me souviens, moi, d'avoir découvert en tout cas ce livre déjà à la maison, parce qu'il y avait la vieille édition que mon papa conservait. Mm-hmm. Mais c'est également une dame, une Française, qui alors, elle, était de Clermont-Ferrand, donc rien à voir avec l'Afrique, qui dit ce livre-là, moi je l'ai découvert aussi dans les années 70.
Oui, mais c'est un livre, c'est une aventure dans l'aventure. Hein. Figure-toi, Tito, que moi j'ai su par hasard qu'il y avait une projection à la Cité universelle. Qu'est-ce qui m'a sensibilisé? L'inspecteur Makossa, à qui on donne bonjour, c'est lui qui m'a sensibilisé. J'ai dit, mais tiens, j'étais pas au courant. Enfin, l'information n'avait pas circulé comme logiquement ils auraient dû venir ici pour qu'on fasse du tam-tam autour, quoi. Parce que ça concernait tous les Africains. On a soif de connaissances du passé de l'Afrique ici en France déjà. Et bon, ben je l'ai su, je suis arrivé là. La salle s'est remplie au fur et à mesure. Quand même, il y avait des gens de plein de pays. Et lui, malheureusement, ne se sentait pas bien. Il était en France, mais il n'a pas pu assister. Alors, à la fin, avant la projection du film, Sidi Kaba, qui était l'artiste principal du film, est apparu. Alors c'est une drôle d'aventure parce que pour nous autres, figure-toi que j'ai été chargé, moi, de faire la musique de film de cette aventure-là. Hervé Bourge était encore patron à la télévision, à qui on donne bonjour d'ailleurs. Et c'est lui qui y a eu un montage financier et c'est lui qui a tenu à ce que je fasse la musique de ce film. Il a tenu, et puis Sidi Kiba Kaba, qui à l'époque tournait avec les Jean Marais, tournait avec beaucoup de gens en fait. Et il était la vedette à cette époque-là. Difficile montage, mais on a pu quand même faire la musique. Alors moi, je ne savais pas, comme je te dis. J'ai redécouvert cette musique-là, parce que ça doit être dans les années 80 ou quelque chose comme ça, quand bouge. Et c'est là où je rencontre ton maître, qui était dans les couloirs, et puis moi j'avais plus mis pied dans la cité universitaire depuis
le boulevard Jourdan.
Boulevard Jourdan. Et retrouver ces murs-là, et retrouver tous ces jeunes-là et les moins jeunes, qui s'intéresse à la culture, ça fait vraiment chaud au cœur, en fait. C'est des personnages comme vous, qui s'intéressent à autre chose que le bal du samedi soir, quoi.
Et d'ailleurs, ce qui tombe bien, d'ailleurs, Maître Bocarcanté, c'est que ce film, signé Jacques Champreux, il faut le dire, est sorti en 83, le Don Manu le disait. Il faut dire quand même que c'est une sorte de long métrage, dans ces années-là, que l'on faisait beaucoup avec une esthétique et un soin, une fidélité au récit. Vous qui êtes avocat et qui parliez tout à l'heure de la protection des monuments, il y a aussi les œuvres comme celle-là. Ce cinéma de Sem Ben Ousmane, d'Henri Duparc et des autres. À ce niveau-là, il y a aussi un problème qui va se poser dans les années futures, parce que des catalogues rachètent ces films qui bientôt appartiendront pour la plupart à d'autres cinémathèques occidentales. Est-ce que c'est une chose sur laquelle vous pensez un jour peut-être à vous pencher par prolongement?
Oui, déjà en matière de tout d'abord, je vais vous donner mon impression du film. Je l'ai trouvé intemporel.
Oui, le problème se pose toujours.
Parce que véritablement, les sujets traités sont toujours d'actualité.
Ah ben oui,
voilà. Ça veut dire que le livre est intemporel.
Exactement.
Et vous parlez des sujets parce que l'exil, l'émigration, la jeunesse aussi, et puis le monde rural, parce que on parle du Futatoro et puis la famille de notables de Samba Diallo. Le Don Manu dit c'est quand même le clash de quelqu'un qui au départ est dans un bel environnement. Voilà. Il n'est pas sorti d'une petite ferme. Ça pose beaucoup de questions.
Non, mais jeune étudiant des années 50, déjà ayant la chance d'avoir une famille qui l'envoie faire des études, qu'on continue ses études à la métropole, c'était quand même... On était encore colonisé quand même, mais faut pas oublier ça, parce que ça se passe dans les années 50, quoi. Et c'est le premier film réellement qui parle de l'existence des étudiants, des élèves de ces années-là. Et voilà, et le livre, j'espère que ce sera l'occasion de ressortir le livre.
Oui, avec cette pochette et ce masque qui nous est peur, il faut dire au départ, quand on sortait l'ouvrage, l'aventure ambiguë, on se disait ça va faire peur comme semblait le Guinarou. Mais ça n'a bien rien à voir.
Comme de la brousse et de la forêt.
Et de la forêt. Et alors, Maître Bocarcanté est avec nous, Don Manu, et avant qu'on écoute la voix de cher Amidou Kane lui-même, vous vouliez ajouter quelque chose.
C'est par rapport à votre question sur, ceux qui achètent les catalogues de ces films-là. Mm-hmm. Tout d'abord, moi, il me semble que ces films doivent être rendus disponibles pour le public, surtout pour le public africain.
Ça dépend qui est propriétaire de la bande originale.
Voilà,
aussi.
C'est ça. Et il faudrait que les pour la question de propriété, c'est plutôt pour le film par exemple, le producteur qui a effectivement.
Il faut aller jusqu'au producteur.
Tout à fait, exactement. Et dans ce cas de figure, actuellement, comme c'est un film de 1983, ça veut dire que les droits d'auteur sont toujours
en place. Ils courent toujours.
Voilà, parce que.
Aux 70 ans.
70 ans après le décès du.
Mais on peut remonter. On peut remonter jusqu'au producteur.
Producteur.
Ce serait bien de sortir un DVD.
Tout à fait. fait.
De ces ouvrages-là, comme Saint-Ben Ousmane, il avait sorti, enfin, les gens ont sorti des DVD de lui, mais un peu confidentiel.
Madame Henri Duparc aussi, Don Emmanuel, a eu cette belle idée, on l'avait vu, de mettre toutes les œuvres de son mari sur un DVD, mais se pose aussi la question de nos télés, parce que nos télés, pour rendre ces films accessibles, nos chères télévisions nationales,
pourraient les projeter. Parce que c'est quand même un patrimoine qui appartient à tout le monde. Et puis, bon, ils sont toujours à la recherche, de toute façon, de films. Il faut bien alimenter les chaînes et tout ça, culturellement parlant, quoi.
Sans vous interrompre, en fait, ce que je voulais surtout lancer également, ce serait plutôt de créer des cinémathèques dans différents états africains, en fait.
Oula,
ce qui permettrait réalité de valoriser ce cinéma africain, en fait.
Et il faut déjà commencer à former les enfants à l'école sur tout ça, parce que si vous faites une cinémathèque maintenant, qu'est-ce qui va y aller ? Les gens, ils sont pas encore au courant. Donc, il faut commencer à former les gens qui pourront par la suite. C'est un plan, un plan quinquennal ou je sais pas, une dizaine d'années pour vraiment former dès l'école les enfants au problème des arts en général. Il n'y a pas que le cinéma, il y a la musique et tout ça. Que les enfants, ils aient... C'est un gros problème pour l'Afrique, hein. C'est un gros problème.
Justement, cette cinémathèque va dans ce sens-là, parce que ça permettra justement aux jeunes, aux enfants, d'avoir accès aux films anciens et, en tout cas, au patrimoine culturel, au patrimoine cinématographique africain. Et je connais un cinéaste qui est bien connu. En fait, j'oublie, je suis un peu. En fait, on avait eu à discuter de cette cinémathèque, de ce projet qu'il voulait lancer justement à Dakar. Et ce serait intéressant
de le faire en
de
tout
promouvoir
cas.
Ce genre de projet. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de cinémas au Sénégal, en tout cas à Dakar, qui sont transformés en églises, par exemple.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Hein.
Il y en a même beaucoup plus du côté de l'Afrique centrale. Hein. Alors, en tout cas, il y a une bonne chose, c'est qu'il parlait de cinémathèque. Le FESPACO, déjà, qui arrive très vite, ça va être donc
février
prochain. Le patron du FESPACO, pour dire le commissaire général du FESPACO, Arduma Soma, est l'ancien patron de la Cinémathèque au Burkina Faso. Ce qui fait qu'il défend, on a quelqu'un qui défend, voilà. Qui
ben
défend
il faudrait films. Qu'il y ait une journée ou deux journées de la projection de ce type de film pour raconter les histoires avant, parce qu'on va, en avant, on sait pas ce qu'on a des choses en banque, on les connaît pas.
Tout à fait.
Si on écoutait la voix de
cher Amidou Kan, le grand homme natif de Matam, c'est sur les bords donc du fleuve Sénégal, qui il y a 7-8 ans donnait une interview pour évoquer son parcours à lui, mais également parler de l'aventure ambiguë. C'est quand même une voix qu'on n'entend pas tout le temps.
Non, on peut pas dire qu'il abuse. Hein.
Absolument. C'est un monument d'Afrique et vous allez l'entendre, monsieur cher Amidou Kan.
Je suis né ici au Sénégal, dans la région du fleuve, à Matam. J'appartiens à l'ethnie des Peul. Et c'est pendant cette période-là que, d'une part, j'ai appris à parler le Poular, j'ai appris à parler le Wolof. Et à l'âge de 7 ans, j'ai commencé l'école coranique, qui est la formation religieuse, où pendant quelques années, on apprend par cœur le Coran. Avec Mamadou Dia et son gouvernement, nous avons pris part, en 1959, à la préparation du Sénégal pour accéder à l'indépendance. Et en 1960, j'ai été nommé gouverneur de la région de Thiès pour permettre de tester la nouvelle organisation administrative. Après quoi, je suis revenu au Sénégal, à Dakar, je veux dire, comme ministre du Plan et de la Coopération, position que j'ai occupée avec donc Senghor comme président de la République et Mamadou Dia comme président du Conseil. J'ai démissionné de l'administration du Sénégal et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour l'UNICEF. Après 3 ans au Nigeria, je suis resté 7 ans à Abidjan, supervisant le bureau régional de l'UNICEF pour cette quinzaine de pays. Et puis, en 2006, J'ai participé à la création, par conséquent, du PARER, partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue. Ce que je décris dans le livre, dans le roman que j'ai écrit, dont le titre est L'aventure ambiguë, c'est un peu une évocation des problèmes que posait à la société africaine leur contact avec le colonisateur qui est venu conquérir nos pays. Et depuis, j'ai continué de prendre conscience de ce que ce livre, il n'exprime pas seulement la condition humaine de l'homme noir d'Afrique musulman, mais qu'il exprime un peu la condition humaine de toutes les identités spécifiques du monde face à l'identité occidentale.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Cher Hamidou Kane, alors là, ben Manu, on dit respect.
C'est une petite carte de visite. Un maître.
Oui.
Il se présente quand même lui-même et ben, le livre est là, quoi. Il exprime exactement la préoccupation non seulement du jeune Sénégalais, du jeune Africain et puis de l'être humain en règle générale, quoi. Tu vois, colonisé.
Parce qu'il dit justement, maître, que ça ne concerne pas simplement un jeune Africain, parce que cet exil et finalement ce déplacement, il touche toutes les personnes. On en parle souvent, qui quitte d'un endroit pour aller ailleurs.
Oui, bien sûr qu'il touche toute personne qui quitte un endroit pour se rendre ailleurs. Déjà, un exemple que je peux donner, c'est que moi, au Sénégal, sans être sur cet aspect culture, religion, mais déjà, quand on quitte le Sénégal et qu'on arrive ici en France, on constate qu'il faut tout programmer. Quand tu dois prendre les métaux, regarder. C'est pas si évident que ça. Pour arriver à prendre, par exemple, donc il y a toujours.
C'est-à-dire que le choc qu'a connu Samba Diallo, finalement, Maître Bocar Kanté, lui aussi, l'a connu.
Bien sûr, je l'ai connu.
La particularité, c'est qu'à l'âge de 5 ans, de 7 ans, il était déjà à l'école coranique. Et puis tu entres dans un milieu chrétien quand tu arrives de l'Afrique du Sénégal, par exemple. Et il y a en dessous, il y a quand même une vision ou chrétienne ou musulmane du monde.
Oui.
En dessous.
Et puis il parle d'ailleurs de Manu d'avoir d'abord appris, voilà, il dit de l'ethnie Poulard, et puis il a été apprendre d'abord les
langues, Wolof,
le Wolof et le reste. Il parle vraiment du chemin d'un enfant qui quitte le village, parce qu'on parle vraiment de cette traversée, de cette aventure, pour devenir ce monsieur qui incarne aussi l'élite d'alors. Parce que dis donc, Samba Dia,
ce sont les premières élites, en fait.
Léopold Sédar Senghor, et il le dit, j'ai quitté, voilà, c'est-à-dire que lui s'en va. Il décide de partir.
Ouais. Il quitte l'administration, il faut le faire.
Oui.
Il y a une volonté derrière, quand même, c'est pas banal. Je veux dire que, en général, quand t'es un fonctionnaire chez nous, c'est le nirvana. Hein.
C'est très confortable.
Hein, ça va, ça va. Mais lui, il dit non, je change de chemin. Je veux vers l'international, en fait.
Et surtout.
Parce que l'UNICEF, c'est international, quoi.
Et il se consacre à l'UNICEF et il continue les combats parce qu'en 2006, le sort des enfants de la rue, qui est quand même quelque chose de très, très, très
préoccupant
au niveau du Sénégal, on parle des boules fallées, quand on en parle souvent, il aurait pu dire, mais il est toujours un homme de son temps, cher Hamidou Kane. Vous, maître, qui êtes au Sénégal et qui y allez, la dimension et l'aura de cher Hamidou Kane restent toujours aussi importantes.
Oui, cher Hamidou Kane reste toujours important, d'autant plus que il apporte même un témoignage. Par exemple, le gardien du temple.
Oui.
Quand on lit le gardien du temple, on
c'est le deuxième livre. Donc.
On voit vraiment le témoignage sur l'histoire du Sénégal. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un clivage entre Senghor et Mamadou Dia? Voilà.
Oui.
Donc, et d'ailleurs même, je pense que comme ils étaient amis, et lui-même était un ami, lorsque ça a eu un clash, je pense que c'est ce qui a provoqué également sa démission.
Sa démission.
Mais ce serait bien qu'il rencontre Francis, tiens.
Ah ben, il faudra absolument.
Oui,
de toute façon, on sait que Francis Laloupeau et Stéphanie Hartmann nous écoutent, y compris le dimanche matin, parce que les thématiques qui sont évoquées dans le parcours de Cher Amidou Kane, celles que vous défendez aussi, maître, à un moment donné, se rend compte, parce que finalement, de Amanou, dans ces gens que maître Bocard Kanté défend, il y a des gens qui étaient avocats au pays, qui se retrouvent dans une situation administrative préoccupante et qui changent complètement de cadre de vie et de casquette.
Ah ben, Senghor, déjà, il était ministre ici à la troisième, à la quatrième République. Hein, lui et papa Oufouet. Et même les jeunes d'ici, de ce pays, ne savent pas qu'il y avait des ministres africains ici. Et même les Africains ne savent pas qu'il y avait des ministres africains. Tout a été fait pour édulcorer cette quatrième république. Alors, c'est des gens qui ont quand même eu des parcours assez particuliers.
Il y a une phrase qui est quand même très forte lorsqu'on résume d'ailleurs l'aventure en ambigu. C'est cette phrase de Samba Diallo qui est envoyée à l'école des Blancs pour y apprendre comment on peut vaincre sans avoir raison. C'est aussi des thématiques philosophiques.
Ah oui, c'est fort, ça.
Parce que lui, finalement, c'est un combat pour lui, c'est un combat pour s'en sortir, mais ce n'est pas un combat identitaire. Et certains, à un moment donné, ont voulu, on va dire, aller travestir la thématique du livre en disant, il vient pour revendiquer une négritude, un statut de l'homme noir. Il faut bien lire les œuvres, hein, il faut bien lire les livres.
Entre les lignes. Et c'est un combat sans violence, uniquement violence verbale. Hein. C'est pas le combat comme on s'imagine en ce moment avec les armes. Les seules armes, c'est juste l'intellect.
Les arguments.
Et on parlait de combat intellectuel. Maître Bocard Kanté est avec nous. Vous avez évoqué Senghor. On a pioché comme ça dans notre discothèque une œuvre qui est tirée d'un poème de Léopold Sédar Senghor et qui est donc une œuvre de Meïssam Baye. On l'appelle le prince de la Casamance. Meïssam Baye qui était étudiant dans les années 80-90, qui était vraiment, comme beaucoup d'autres, anti-Senghor, qui évidemment critiquait le personnage politique de Senghor, des fois le trouvant trop pro-occidental et autres, et qui sur le tard finalement s'est dit, avec le recul, Senghor nous a quand même fourni une sorte de force pour nous qui avons été en Occident, et une force littéraire, une force culturelle, parce qu'étant natif du pays de Senghor, on avait des arguments pour se poster à la face des Occidentaux qu'on est venu croiser pour nos études. Est-ce que pour vous, ça a été un peu la même chose? D'être du pays de Senghor, est-ce que c'est une force, une carte de visite, un avantage?
Oui, c'est une force, le fait d'être du pays de Senghor, d'autant plus que on a vu qu'au niveau diplomatique déjà, au moment des indépendances, il y avait quand même un développement de la diplomatie sénégalaise. Mais un élément à soulever, c'est que Senghor, dans le développement du Sénégal, c'est sur quoi il a travaillé à cimenter la nation en réalité. Par exemple, pour éviter les conflits ethniques, il y a ce qu'on appelle les parentés à plaisanterie qui ont été valorisés pour véritablement créer un dialogue au sein de la nation et amener les différentes personnes à communiquer. Et deuxième point, c'est que Senghor, il y avait cet aspect de panafricanisme. Il y avait un club qu'on appelait Club Nation et Développement. Et dans le cadre de ce Club Nation et Développement, il y avait beaucoup de personnalités venant d'autres pays africains qui étaient invités pour débattre de certaines thématiques. Et l'aspect culturel était vraiment mis en avant par ça.
Senghor, l'Africain de Amanou, parce que pour toi, Senghor, ou Papa Oufouet, ou les autres, ce sont vos référents, en fait. Au départ, il n'y a pas de Sénégal, pas de Côte d'Ivoire.
Et comme d'habitude, contesté par la nouvelle génération. Hein. Quitte à ce que la troisième génération reconnaisse, c'est la même chose qui est arrivée à la trilogie. Tout le monde, tous les étudiants, la trilogie pour eux, c'était quelque chose d'infernal, quoi. C'est plus tard que tu te rends compte que Senghor, Césaire,
Gontran,
c'est quand même les premiers dans les années 20 qui ont mis un parfum d'Afrique dans cette Europe esclavagiste, colonial et tout ça. Voilà que ce sont des jeunes qui viennent d'horizons différents, sauf que ils sont tous noirs, ils parlent français, et puis ils sont intellectuels, haut de gamme quand même. Je veux dire qu'il y en a qui étaient dans la classe de Pompidou et tout ça.
Ah oui.
C'était pas des balayeurs, vous non plus d'ailleurs, pour faire le lien quoi. Et donc les générations d'après, ils voyaient ça d'un très sale œil jusqu'au moment où, quand on parle de référence maintenant, c'est quand même les premiers.
En pensant évidemment à des grands noms comme Alioune Diop, des noms en fait qui nous faisaient rêver, parce que on disait Alioune Diop et puis présence africaine avec un grand clin d'œil à Madame Diop.
Oui,
c'est vraiment
Par cette fin d'année, d'avance, on lui souhaitait des bonnes fêtes. Hein.
Absolument. En lui disant Diel et Dief, comme on aurait pu dire au pays de Maître Bocar Kanté qui était avec nous. L'heure passe vite, Douamanou, et avant d'écouter Mes Sambaï, Départ, et puis la jeune garde, sénégalaise musicale, Diogal avec le titre Rare, on aimerait dire que l'aventure ambiguë est toujours dans les librairies.
Ben, il faudrait s'assurer de ça. En tout cas, nous, on va faire le tam-tam pour ça, parce que c'est une œuvre, par exemple, à offrir pour les fêtes. C'est quelque chose de... C'est dommage que maintenant c'est un peu tard, parce que le DVD aurait été complet avec le livre. C'est des beaux cadeaux de fin d'année pour nos communautés. Hein.
Tout à fait.
Un beau cadeau aussi, c'est celui de rester fidèle à la radio africaine, parce que l'heure est déjà terminée. On vous remercie, maître, d'être venu.
Est-ce que je peux...
Rapidement, allez-y.
Bon, très rapidement, concernant la protection du patrimoine culturel, surtout la convention du 14 novembre 1970 sur la restitution des biens culturels, demande à ce que les États fassent un inventaire de leur patrimoine culturel. Et la plupart des États africains, sur ce point-là, c'est un problème. Il n'y a pas d'inventaire, et sans inventaire, on ne peut pas prouver que tel patrimoine est de notre patrimoine culturel. Donc s'il y a vol exportation illicite, on ne peut pas les défendre.
Merci. C'est un appel lancé à nos ambassadeurs qui nous écoutent.
Vous avez un cabinet ici, maître?
Tout à fait.
Vous pouvez donner l'adresse.
Mon cabinet se trouve au 66 rue Lafayette dans le 9e.
66 rue Lafayette dans le 9e, maître Bocar Kanté qui est avec nous.
Voilà, donc si les gens de la communauté ont quelque chose à défendre, voilà une adresse utile.
Et voilà, et c'est déjà la fin de l'émission. Donc.
Voilà, et bien François, Tito et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
10h, heure de Paris.
Toujours avec...
Léger, nu, sans bâton ni besace.